Nous avons sûrement été tous bénis par la parole que nous écoutions. Et je crois que le Seigneur, encore aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, avec nous tous, parlera. Mais nos cœurs doivent être préparés. Parfois, ce sont des paroles précieuses et des pensées de Dieu précieuses. Et ce serait trop dommage si elles tombaient à côté et si elles n'atteignaient pas nos cœurs. Quand Dieu, d'une telle manière si merveilleuse, parle avec nous, alors nous devrions, avec tout ce qui est en nous, comprendre quelles sont les pensées de paix qu'il a pour nous, le bien qu'il nous veut et qu'il veut nous parler personnellement, et pas seulement ça, mais la parole qui nous adresse, il le fait pour un objectif. C'est pour ensuite la réaliser, l'accomplir en nous. Car ce qu'il dit, quand il dit quelque chose, la chose arrive, quand il a dit que la lumière soit, la lumière devait être. Quand il avait ordonné, les choses ont existé. Quand il a dit, les choses ont arrivé, les choses se sont arrivées, les choses se sont accomplies telles qu'il a dit. Quand il dit quelque chose, la chose arrive. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas seulement que Dieu parle avec nous, mais ce qu'il a dit, ce qu'il nous adresse, ce qu'il a prononcé, la parole de Dieu parlée, prononcée, n'est pas seulement une parole révélée sur laquelle ensuite nous pouvons en parler, mais c'est une parole de Dieu qui trouve son accomplissement par la grâce de Dieu en toi et en moi. Par nous, c'est ainsi que c'était, en tout cas dans l'Église primitive. Et c'est comme ça que cela doit devenir maintenant encore à la fin. Il est écrit dans Actes 13 qu'il louait la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'accomplissement, la confirmation de la parole. Ils expérimentaient personnellement ce que Dieu, dans sa parole, leur avait promis et leur avait dit. Je ne sais pas, mais j'espère que dans la prière, nous avons préparé nos cœurs. Ce sont des heures précieuses, des heures de préparation, pas seulement d'enseignement. Il s'agit d'aller vers le but et d'atteindre le but. Et si dans la parole d'introduction qui nous a été adressée, nous avons compris que ce salut est déjà prêt, mais qu'il sera révélé dans les derniers temps, la fin de toutes choses. Est là. Dieu, par les apôtres et les prophètes, déjà au commencement, avait prédit la fin et nous l'a révélé, ce qui allait arriver. Aujourd'hui, nous allons avoir une heure d'enseignement biblique, pas comme ça de manière démonstrative, exprimer les pensées de Dieu, mais pour que de tout notre cœur, nous puissions savoir ce que Dieu a comme intention avec nous et comment est-ce qu'il nous classe, il nous évalue et pour quel objectif il veut nous utiliser. Avant d'entrer dans la parole, je crois que nous devrions encore avoir une communion de prière et dire, Seigneur, ô Dieu, nous sommes ici, pas pour écouter un homme, mais pour t'écouter, nous parler. Que tu puisses prendre les lèvres de celui que tu veux utiliser. Prends nos cœurs. Prends tout. Soumis à l'obéissance de ta volonté. Et Révèle-toi parmi nous, manifeste-toi parmi nous. Levons-nous pour le faire, pour prier. Père céleste, ensemble nous venons devant ta sainte face, ô Dieu. Tu nous as déjà touchés par ta parole. Tu nous as montré le salut. Nous sommes sauvés. Mais à la fin, cela sera manifesté. Ô Dieu, que dans ces dernières secondes du fin de la, du temps de la grâce, que nous puissions reconnaître ta volonté et nous laisser inclure dans le destin du salut. Seigneur, si cela te plaît, parle aujourd'hui avec nous d'une manière qu'on peut comprendre, pas en parabole, pas en image, mais parle ouvertement et clairement avec nous. Seigneur, que cette réunion soit sous la conduite de ton esprit. Seigneur fidèle, notre Dieu, conduis et dirige, guide tout. Et nous te remettons toutes choses entre tes mains. Nous te remercions de ce que tu vas le faire. Loué soit ton merveilleux et saint nom. Amen. Amen. De la parole que nous avons déjà entendue, il n'est plus besoin de faire référence à cela, de mentionner cela. Cela est allé dans nos cœurs à tous. Nous avons compris de quoi il s'agit. Ici, il est dit, le verset 6, 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Maintenant, suit l'objectif de la chose, le sens de la chose, afin que, par cela, l'épreuve du test de votre foi, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu dans son authenticité, est pour rejeter la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et nous avons déjà parlé de ça. Et j'ai été déjà dans une mine d'or, 1000 mètres de profondeur, parfois même 1200 mètres de kilomètres. J'ai vu de l'or en tonnes et en tonnes. Mais cela ne servait encore à rien. Il fallait que cet or soit extrait. C'était des roches à droite et à gauche. Je ne veux pas ici entrer dans les détails. Mais ensuite, le soir, on voyait la lumière d'un feu très fort. Et ensuite, cet or fut fondu. Et ces laitiers et ces scories et la couche de ce corps, de cet or, tout a été séparé de l'or. Et ensuite, l'or pur fut répandu comme un fleuve immense. Et c'était de l'or pur et précieux. Le feu devait être très, très fort. Et là, ça ne pouvait pas être comme ça, une flamme, comme ça, une petite flamme. Ça devait, car l'or devait être séparé, purifié, mis à part. Et nous allons venir encore aujourd'hui à parler de ça. L'or devait être extrait, séparé de ces laitiers. Et je vais lire plusieurs écritures ce matin et que Dieu puisse utiliser ses paroles pour nous parler à tous. Il y a quelque chose qui me touche. Que Dieu a conduit les apôtres et dirigé les apôtres d'une manière qu'ils ont tout fondé sur le fondement de l'Ancien Testament. Même la prière. Maintenant, vous allez vous étonner ou pas. Pas seulement dans l'enseignement, ou bien dans, de manière prophétique, ou bien du dessein du salut. Mais même quand il s'agissait de leur prière, ils ont utilisé les paroles des Saintes Écritures. Dans leur prière, ils ont inclus les paroles des Saintes Écritures et ils ont ouvert leurs yeux devant, leur cœur devant Dieu et en même temps, ils ont cité des versets bibliques, ils ont énuméré des versets bibliques dans leur prière. J'aimerais toucher une prière rapidement dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, à partir du verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 24. Lorsque leur... Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur, David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ce tumulte et ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. D'un côté, un état triste. Se sont ligués et ils ont été livrés et tout ce qui appartenait à cela. Et ensuite, ils ont constaté ici, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Allons au psaume 2, dans lequel cette parole est écrite. Et de là-bas, nous allons lire d'autres écritures. Psaume 2. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Verset 1. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Et que cela n'est pas une parole merveilleuse? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Si dans notre temps nous regardons, tous se soulèvent, se liguent, tous viennent se réunir, tous s'unissent. Tout doit être, n'est-ce pas, sous un chapeau, sous une tête. Comme ils disent, tous doivent être unis pour être forts. Pour nous, cette parole est valable. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Nous ne sommes pas là pour être unis par des hommes, pour ensuite être enchaînés et être dans leurs liens. Mais nous sommes déterminés à être libres et à rejeter tout de nous qui ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur, dans Isaïe 61, a dit, « L'Esprit de Dieu du Seigneur se repose sur moi pour rendre libre les captifs. » Au verset 7 du psaume 2, il est écrit, « Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Je t'ai engendré aujourd'hui. Je voudrais rappeler ce que j'avais entendu hier. Ésaïe 49, verset 6. « C'est peu que tu sois mon serviteur pour révéler, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Écoutez, maintenant, ce qui est écrit au verset 8 du psaume 2. Le psaume 2, verset 8 maintenant. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Dieu, par la bouche de son serviteur et prophète, depuis le commencement, a parlé par la bouche de son serviteur et prophète. L'histoire du salut a été prédite à l'avance. Et écrite à l'avance. Si nous lisons à partir du verset 12, ici il est dit, psaume 2, baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Oh, que nous puissions avoir reconnu et cela par et cela révélé par le Saint-Esprit, par l'Esprit, que en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons été réconciliés et liés avec Dieu et que Dieu pour toujours nous a fait grâce. Au psaume 8, nous lisons plusieurs écritures. À partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Nous avons plusieurs fois parlé de cette parole, mais je ne suis pas sûr que nous ayons tous compris la signification divine de cette parole. Ici, dans un seul verset, le verset 5, homme et fils de l'homme sont prononcés. Homme et fils de l'homme vont ensemble. Qu'est-ce que l'homme? Ça, c'est toi et moi. Et qu'est-ce que le fils de l'homme? Ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ici, le lien est fait. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Dieu aurait même pas eu besoin de nous regarder. Nous nous sommes séparés de lui. Il ne nous aurait même pas regardé. Qui a remis le pont? Qui est le médiateur? Qui est la réconciliation? Où est-ce que la relation, la rencontre avec Dieu et nous a eu lieu de nouveau? Elle a eu lieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Que sommes-nous? Rien du tout. Et encore moins que cela. Mais que sommes-nous devenus par Jésus-Christ, notre Seigneur? Il s'est dépouillé, est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix, sur la croix. Et toute notre désobéissance, il s'en est chargé, toutes nos fautes et nos péchés, il s'en est chargé. Et c'est lui dans lequel nous avons été réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce qu'est l'homme? Que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, à la divinité en allemand, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Oui, tu as tout mis sous ses pieds. Où est-ce que cela a eu lieu? Et comment est-ce que ça a eu lieu? Je voudrais encore lire plusieurs écritures. À partir du verset 5. Hébreux 1, verset 5 maintenant. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Cette parole doit aujourd'hui nous toucher comme jamais auparavant. Et nous allons voir que nous tous, nous sommes inclus dans ce verset, que cette parole est écrite ici au singulier. Et je vais vous montrer où est-ce qu'elle est écrite, elle est trouvée au pluriel. Et si Dieu peut nous amener dans cet état, dans cette position, dans cet état que nous reconnaissons notre position divine, alors il pourra nous utiliser et nous bénir pour que par nous, sa parole trouve sa confirmation et son accomplissement. Allons à 2 Samuel chapitre 7, verset 14. Cette parole est écrite là. Et ne vous étonnez pas que dans la deuxième moitié du verset 14, un raisonnement humain dans la parole de Dieu est donné qui ne peut pas se référer à notre Seigneur. Je vais lire ici dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne veux pas au moment continuer à lire. Comparer cela que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, alors qu'il parlait de Christ le Seigneur, ici, il s'est arrêté dans son exposé dans Hébreux. Il n'a pas continué, il n'a pas écrit tout le verset 14. Ici, il s'est arrêté, c'est-à-dire seulement la partie, il a lu seulement la partie, il a écrit seulement la partie qui se réfère à Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans le Nouveau Testament, nous lirions sur Jésus-Christ ce que je vais lire maintenant dans la deuxième partie du verset 14 de 2 Samuel 7. S'il fait le mal, en allemand, s'il fait une erreur, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Notre Seigneur était Dieu manifesté dans la chair. Si lui, il avait fait du mal, le mal, et il avait fait une erreur, il n'aurait pas pu ôter tes fautes et tes erreurs et ton mal. Il était parfait, achevé. Pourquoi? Comme la parole du prophète Ésaïe, chapitre 61, que notre Seigneur, dans Luc chapitre 4, lisait. Il a stoppé au milieu même du verset. Il a arrêté de lire là où il était nécessaire d'arrêter pour lire seulement la partie qui se référait au ministère d'autrefois. Ici, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, au milieu d'un verset, a fait un stop. S'est arrêté. Et je le répète encore une fois. Est-ce que quelqu'un pourrait s'imaginer que, en faisant mention de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, nous lirions « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Cela résonne bien, cela est merveilleux. Mais imaginez-vous que si nous devrions penser à Christ et lire dans le Nouveau Testament, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Notre Seigneur ne pouvait pas faire le mal, ne pouvait pas faire une erreur. Et il n'a pas fait le mal, il n'a pas fait d'erreur. Ici, il s'agit de la tête et des membres. Ici, il s'agit du Sauveur et des rachetés et du mystère de Dieu qui, depuis même la fondation du monde ou bien du temps, était resté caché et dans le déroulement des temps, a été et devait être révélé. J'espère que tout de suite, nous verrons quelque chose. Nous devons voir ces choses dans ces jours. Ça ne nous suffit pas de montrer la place des prophètes et des apôtres. Et ça ne suffit pas de dire que Jean-Baptiste avait son ministère, Paul avait son ministère, Frère Branham avait le ministère qui lui avait été accordé. Tout cela est merveilleux de le reconnaître. Et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais maintenant, il s'agit de l'achèvement, de la perfection de l'Église, de l'appel à sortir pour que nous puissions être placés dans la position divine. Et il n'y a pas eu de temps dans lequel tout pouvait être ordonné comme ça, placé à sa place de manière biblique, comme dans nos jours. Et pas parce que nous formerions une exception, mais c'est parce que l'heure de Dieu est venue dans laquelle ces choses-là doivent devenir une réalité. Et c'est pour cette raison que Dieu fait toutes ces choses pour que son dessein mondial complet se réalise. Laissez-moi lire une parole. Je vais revenir encore à la même pensée dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15, et pour montrer comment est-ce que Paul, comment est-ce que Jacques, comment est-ce que tous ces hommes de Dieu, par l'Esprit de Dieu, étaient conduits. Conduits par l'Esprit de Dieu. Je lis à partir du verset 13. Actes des Apôtres 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon ce qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ce que Paul a fait en raison de la parole prophétique, a reconnu en raison de la parole prophétique, et ce qui lui avait été révélé, que Dieu des nations appelle un peuple à sortir à cause de son nom, pour de ce peuple-là former son église. Ici, nous avons lu, je lui serai père et il me sera fils. Le reste n'existe plus dans Hébreu, n'est pas cité de 2 Samuel 7, verset 14. Et laissez-moi lire la parole de 2 Corinthiens, le chapitre 6, dernier verset. 2 Corinthiens, chapitre 6, le dernier verset. Je serai pour vous un père. Alléluia. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Une fois, au singulier, je lui serai père et il me sera fils. Ensuite, le pont au Nouveau Testament, à sa place, ordonné, redonné, comme dans 2 Samuel, je lui serai un père et je lui serai père et il me sera fils. Mais maintenant, cela est exprimé au pluriel. Il est parlé de cela au pluriel. Et la même parole est utilisée pour l'Église, telle qu'elle était utilisée pour le Seigneur. Bien alors, la parole qui était utilisée pour le Seigneur est utilisée, la même parole est utilisée pour l'Église. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Pas seulement un cours, pas seulement la connaissance et l'enseignement, mais il s'agit que nous puissions reconnaître notre position divine et dans la foi nous rester, nous tenir là et rester là dans cette position divine. Maintenant, je vais vous lire le verset pour que nous puissions reconnaître de quoi il s'agit ici et qui est-ce que cela concerne, à qui cela est adressé. Et ça, c'est très important. Ça n'a aucune valeur que quelqu'un prenne le dernier verset de 2 Corinthiens 6 sans avoir lu les versets, sans avoir observé et respecté les versets qui sont écrits avant le verset 18. Car dans 2 Corinthiens 6, les versets écrits avant le verset 18 vont ensemble avec le verset 18. Je lis la dernière partie du verset 15, peut-être directement la deuxième partie du verset 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, la deuxième partie du verset 16. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Écoutez ce qui est écrit au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit, ordonne le Seigneur en allemand. C'est pourquoi ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Cette parole est valable pour qui? Pour toutes les dénominations? Pour toutes les églises? Pour toutes les églises libres? Ici, non. Ici, le Seigneur parle de l'Église, du Dieu vivant. Il parle d'un troupeau qui doit être appelé à sortir. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ordonne le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. C'est ainsi que je vous accueillerai, et que je serai pour vous un père, et que vous serez pour moi des filles et des fils et des filles. Voilà, cela va ensemble, voilà le contexte. Peut-être qu'en ce moment, nous ne comprenons pas entièrement le contexte dans lequel ce verset est écrit, et nous dirions, mais est-ce que nous n'avons pas tracé les lignes trop étroitement? Non, Dieu a des cadres, a un cadre, le cadre de sa parole. Et c'est dans ce cadre-là que tout le design du salut se déroule, et nous avons à nous insérer, à rester et à demeurer dans ce cadre, à marcher dans ce cadre. Mais qui écoute cet appel, qui vraiment sort, qui se laisse purifier de tous les de toutes les interprétations, de tous les credos, de tout ce qui n'est pas en accord avec la pratique et l'annonce de tout ce qui n'était pas pratiqué et annoncé dans l'Église et de tout ce qui n'était pas en elle, dans l'Église primitive. Qui se laisse purifier de toutes ces pratiques qui n'était pas dans l'Église primitive et de tous ces enseignements? Qui se laisse appeler à sortir et se purifier de toutes ces choses? Nous devons d'abord reconnaître de quelle manière Dieu nous appelle. Et je voudrais ici, ce matin, dire quelque chose. Un homme qui lui-même est dans une dénomination, il ne peut ni s'appeler à sortir ou appeler les autres à sortir. Appeler à sortir peut seulement que celui qui lui-même n'est pas dans la chose, de laquelle d'autres doivent être appelés à sortir. Et c'est pour cette raison que tous les prophètes étaient à l'extérieur de tous, de tout. Ils apparaissaient avec le ainsi dit le Seigneur. Ils appartenaient à aucun endroit. Et c'est ainsi qu'ils ont fait retentir l'appel de Dieu à l'humanité. Qu'est-ce qui s'était passé avec, qu'est-ce qui s'était passé avec Jean-Baptiste? Est-ce qu'il appartenait aux pharisiens ou bien aux sadducéens ou bien aux scribes et aux docteurs de la loi et à tous ces gens? Où est-ce qu'il a apparu? D'où est-ce qu'il est venu? Il est allé selon la parole de Dieu. Ésaïe 40, versets 3 et 4, dans le désert. Et il a commencé son ministère. Il pouvait appeler à sortir et séparer le peuple de Dieu dans ses jours. En tant que le messager envoyé de Dieu qui avait nulle part pris racine. Dans le naturel, il aurait pu être à la trace, aux traces de, il aurait dû, n'est-ce pas, suivre les traces de son père Zacharie et être sacrificateur. Mais le Seigneur a mis sa main sur lui pour un objectif très particulier. Il était le messager qui devait préparer le chemin. Ça, tout cela, nous avons compris. Mais bien aimé, si dans toute humilité, nous insistons et disons, et peut-être avec étant mal compris par d'autres, que l'histoire du salut prend sa fin comme elle a commencé. Et que avant le retour de Christ, Dieu a envoyé un messager tel qu'il l'avait fait avant sa première venue. Donc, nous n'avons pas prétendu quelque chose qui n'est pas biblique. Au contraire. Alors, nous avons reconnu le plan de Dieu et compris que nous ne pouvons pas rester dans tous les systèmes religieux et même marcher en direction de Rome et ensuite arriver au ciel. Non, croyez-moi, le chemin de Dieu nous est décrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Et celui qui veut atteindre le but, il doit marcher sur ce chemin de Dieu décrit dans la Bible, dans les Écritures. Qui est-ce que cela devrait étonner aujourd'hui qu'un frère Branham ne pouvait pas appartenir ni aux baptistes qu'aux méthodistes? Il était un prédicateur ordonné baptiste, et alors que le docteur Rawls Davids avait donné une conférence et disait ensuite, voilà, nous allons appeler des femmes comme prédicatrices, que nous allons aussi les ordonner à être prédicatrices. Et voilà, cet homme simple du Kentucky a dit, cela, vous le ferez, mais sans moi. Sans moi. Et alors, ce docteur Davis a dit, tu peux donc venir chercher ta carte de membre. Et ça, il a fait. Et il a déchiré. Et ensuite, cet homme a dit, mais à qui est-ce que tu voudras prêcher? Tu vas seulement t'adresser aux piliers dans la chapelle. Des gens ne vont pas venir t'écouter, toi, avec ton éducation, ton niveau d'éducation. Mais bien aimé, Dieu n'atteint personne, ne touche pas les cœurs par l'éducation et l'instruction. Dieu appelle et touche les cœurs par la simplicité, et il veut qu'ils puissent faire la différence entre sa voix et entre toutes les voix instruites dans ce temps. Un homme de Dieu a été mis dehors avec compliment pour qu'il puisse se tenir à l'extérieur de tout camp et de chaque camp appelé pouvoir appeler des gens à sortir. Si lui-même il était resté dans un camp, il aurait pu appeler personne à sortir de ces camps. Oh, la sagesse de Dieu est simplement merveilleuse. Ici, nous avons les Saintes Écritures. Et il est dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ordonne le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Or, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Je voudrais aujourd'hui vous demander, est-ce que cela vous enthousiasme? Est-ce que cette parole ne vous enthousiasme pas au-dessus de toute mesure? D'un côté, faisant référence à Jésus-Christ notre Seigneur, écrit pour lui, référence à lui, je lui serai père. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. De manière prophétique, dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. C'est comme ça que c'était? 7, verset 14. Dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 1, au verset 5, et ensuite suit la partie, que s'il fait le mal, qui peut faire le mal? Pas le Seigneur, mais toi et moi. Nous pouvons faire, ici en allemand c'est faire une erreur, nous pouvons faire une erreur, Et Jean écrit, « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » 1 Jean 2, verset 1. « Bien-aimé cœur, bien-aimé frère et sœur, dans tes erreurs, ne te décourage pas. En tant que fils et fille de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, dans son programme, avait déjà calculé tout cela, que tu ferais des erreurs. » Et c'est peut-être raison qu'il est écrit que s'il fait une erreur, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Et là, nous pouvons continuer à lire. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Il les châtie et il les frappe de la verge. Hébreux 12, verset 6. Donc, revenons à Hébreux, allons dans le chapitre 2 et lisons ces versets connus de nous tous à partir du verset 6. Hébreux 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la mort, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Ici, nous sommes de nouveau inclus en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et vous pouvez, dans le même chapitre, au verset 11, lire, au verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul Père en allemand. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'église en allemand. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Oh, quelle plénitude de pensée de Dieu ici. Les deux ont le même Père. Celui qui est saint et ceux qui sont sanctifiés. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Et si notre Seigneur dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Une liaison divine rétablie. Qu'est-ce qu'est l'homme et qu'est-ce qu'est le Fils de l'homme? L'humanité dans le Fils de l'homme a été réconciliée avec Dieu et il a été fait d'eux des fils et des filles de Dieu. Ils ont été ramenés dans l'état primitif. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le message de joie. C'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la vérité divine qui nous libère de tous les credos pieux et religieux. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes insérés, inclus dans le programme de Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui sont à l'extérieur. Nous ne sommes pas des étrangers. Et pas, en tout cas, auprès de Dieu. Dans ce monde, d'accord. Dans ce monde, nous pouvons être des étrangers. Mais devant Dieu, nous sommes gens de sa maison. Nous lui appartenons. Lui qui nous a fait grâce, qui nous a appelés à sortir et qui nous a inclus dans tout son programme, dans son programme complet, appelé à sortir, pas seulement des hommes qui doivent être sauvés. Il y en aura beaucoup qui seront sauvés, qui lors de la deuxième résurrection, selon Apocalypse 20, à partir du verset 11, quand le jugement dernier aura lieu, alors tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie entreront dans la gloire. Mais nous ne parlons pas de ça ici aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de ceux qui prendront part au festin des noces de l'agneau, qui appartiennent à l'Église épouse de Jésus-Christ, qui prendront part à la première résurrection, qui doivent avoir part, et desquels il est écrit, bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Vous, mon peuple, séparez-vous, sortez, ne touchez à rien d'impur. Alors, je serai votre Dieu. Et vous serez pour moi des fils et des filles, car je vous accueillerai. Donc, nous devons obéir à l'appel et sortir, nous séparer, avant de pouvoir lire le dernier verset et de l'attribuer et de le prendre pour nous. Sans les deux premiers versets, le verset 16 et le verset 17 de 2 Corinthiens 6, personne peut pour sa personne revendiquer le verset 18 de 2 Corinthiens 6. Et celui qui le fait de sa propre responsabilité et à la fin sera déçu. Dieu n'a pas laissé retentir le dernier message pour que nous puissions continuer à faire les choses comme nous avions eu l'habitude de les faire jusqu'à maintenant. Mais que nous puissions recevoir de la clarté, écouter l'appel maintenant, sortir, nous séparer, ne toucher à rien d'impur, de tout ce qui est impur. Et là, il y a beaucoup de choses impures. Celui qui, une fois, a lu l'histoire de l'Église et toutes ces idées humaines qui ont été mélangées avec la parole de Dieu, toutes ces interprétations, toutes les pensées humaines qui ont été mélangées, les pensées romaines, grecques, qui ont été mélangées dans la parole de Dieu, tout cela, c'est un mélange qui a pu sauver personne. Et nous avons ici déjà traité ce sujet d'une prédication, d'une annonce de la parole mélangée. C'est une semence mélangée. Et ce sont des croyants mélangés qui sont sortis. Et c'est pour cette raison qu'il fallait qu'une purification ait lieu. Et que la semence divine, pure, sans mélange, soit semée dans le troupeau, appelée à sortir, pour qu'à la fin, une récolte pure et divine puisse avoir lieu. Une moisson. Et tel que nous l'avons entendu, les mauvaises herbes se sont déjà rassemblées et dans tous ces différents rassemblements. Et tous seront encore rassemblés dans ce grand rassemblement. Mais par la grâce de Dieu, il y a des hommes sur terre qui simplement appartiennent à Dieu. Et ce sont ceux-là qui maintenant écoutent, prêtent l'oreille à l'appel et qui se laissent reprendre, corriger, ramener et qui sortent, se séparent et ne touchent à rien d'impur. Pour moi, c'est quelque chose de très important, très grand, que nous, en tant qu'hommes, nous sommes oublieux et faibles. Nous sommes faillibles tels que nous sommes. Dans cette grande œuvre de la rédemption de Dieu, infaillible, nous sommes, nous, hommes, insérés et inclus. Je lui serai père et il me sera fils. Et ensuite, l'appel à sortir, la séparation, ne touchez à rien d'impur. Et ensuite, je vous accueillerai et je serai pour vous père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Quand? Avez-vous déjà vu cela ainsi? Avez-vous déjà vu cela ainsi? Moi, mais il n'y a pas seulement longtemps. C'est seulement longtemps que j'ai vu cette parole comme ça. Oh, comme c'est merveilleux. Comme Dieu est merveilleux. Pas une philosophie. Pas de philosopher et discuter sur le message et le messager. Mais d'être soi-même inséré dans le plan de Dieu, dans les mystères de Dieu, pas à pas, dans la réalité. Et nous n'allons pas sur l'autel de Dieu allumer un propre feu. Un propre feu. Tel que non plus nous n'allons pas apporter des propres paroles humaines et des interprétations. Mais dans la foi, nous allons vivre et attendre. Nous allons vivre dans la foi et attendre dans la patience que le même Dieu qui est si fidèle et qui, dans sa grâce, parle avec nous, il sera capable, et il est capable, de réaliser dans sa puissance et sa gloire dans notre vie, d'accomplir sa parole que nous avons reçue et de la confirmer. Bien-aimés frères et sœurs, pas un feu étranger, mais Satan à Dieu. Nous sommes le grand programme de Dieu. Et nous avons été insérés dans ce programme de Dieu. Lui la tête. En tant que sauveur, rédempteur, nous les membres. Et nous formons un corps, le corps du Seigneur. Lui, le rédempteur, appartient aux rachetés et les rachetés lui appartiennent. Ils forment un même corps. Ils sont inséparables. Lui le Fils, nous les fils et les filles. Lui, il a fait le commencement. Et nous avons été insérés. Est-ce que vous remarquez l'appel à sortir et la séparation est la condition. Et de toucher à rien d'impur est la condition pour être accueilli auprès de Dieu et être évalué et classé en tant que fils et fille de Dieu. C'est la condition. Et à cela, que Dieu puisse nous accorder à tous, à moi et à nous tous, sa grâce. N'oublions pas cette parole, plus jamais dans son contexte. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit, ordonne le Seigneur, c'est un ordre. Et ne touchez pas à ce qui est impur. C'est un ordre. C'est ainsi que je vous accueillerai. Et que je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Ordonne ou bien dit le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est donc ainsi dit le Seigneur. Acceptons cela de la main de notre Dieu et disons-lui dans la foi et dans la confiance, Seigneur, ici est notre vie, que cette parole qui est la tienne arrive en nous, s'accomplisse en nous, se réalise, soit confirmée en nous. Il le fera. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons comme première chose ce cœur, tel que je suis, sans rien de moi. Ô agneau de Dieu, je viens. Chantons encore ce cœur avec les mains levées. Tel que je suis sans rien, dans moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle, toi, agneau de Dieu, je viens. Père Céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Comme David dans le psaume 2 disait, par l'Esprit de Dieu pénétré, je publierai le décret. Seigneur, Paul pouvait dire, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, tout le dessein du salut de Dieu. Ô Seigneur, qui sommes-nous de ce que tu nous as regardé dans ta grâce et que tu nous as donné de reconnaître le temps dans lequel nous vivons et le message, tu nous as donné la grâce de l'écouter et de suivre ton appel, d'obéir à ton appel, à sortir. Ô Dieu, nous ensemble nous te remercions pour cette grâce et ta fidélité. Seigneur, toi notre Rédempteur, en tant que Fils de Dieu, dans la chair, ici sur cette terre, tu as été manifesté. Tu t'es dépouillé pour pouvoir mourir et tu es devenu semblable à nous, mais sans péché, sans erreur, sans faute. Tu es resté parfait pour que tu puisses te charger de nos fautes et de nos péchés pour faire de nous des fils et des filles que de la même parole et soyons nés et engendrés du même Esprit de Dieu, oui, nés de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Seigneur, comme c'est merveilleux, comme tu es merveilleux, cela dépasse notre savoir, notre compréhension, et nous te remercions de ce que tu es descendu. Et dans ces jours, tu parles avec nous. Seigneur, chacun t'a compris. Si clairement, tu as parlé avec nous, comme un ami parle avec son ami. Bien-aimé Seigneur, nous avons une demande commune, une prière commune, que, en tant que fils et filles de Dieu, nous soyons manifestés. Après que nous soyons appelés à sortir, et que nous nous soyons vraiment séparés, et que nous n'ayons rien touché d'impur, et que nous avons laissé derrière nous tout le levain, et les interprétations et tout cela, que nous puissions maintenant trouver grâce devant ta face. Et en tant que fils et fille de Dieu, être manifesté, comme c'est promis dans Romains 8. Je te remercie pour la conduite de ton Saint-Esprit, pour la révélation de ta volonté et de ta parole. Ô Dieu, chaque révélation qui vient de toi, viens par ta parole et par ton esprit. Je te remercie pour cela et loue ton saint nom. Que, en tant que les bénis du Seigneur, nous puissions t'honorer, te glorifier. Toi qui t'es chargé d'opprobre et de mépris pour nous, fais-nous grâce à cause de ton sang, à cause de ta parole, à cause de ton nom. Et fais quelque chose qui dépasse tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour que, dans notre vie, pour que nous puissions te louer et t'exalter. Quand parmi nous, nous vivrons la confirmation et l'accomplissement de ta parole. Je te remercie pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs. Seigneur, tu as envoyé un homme qui était à l'extérieur de tous les camps dits chrétiens pour appeler à sortir. Et tu nous exhortes dans Hébreux que nous aussi, chacun de nous, nous devons aller au-delà du camp pour porter ton opprobre. Aide-nous à cela, à faire comme Moïse l'a fait, qui, n'est-ce pas, à considérer l'opprobre de Christ comme un trésor plus précieux que ceux de l'Égypte. Seigneur, nous te remercions et louons ton saint nom. Nous pourrions chanter « quel repos céleste dans le Seigneur ». Tu nous as fait grâce. Nous avons reçu le salut. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Dieu fidèle, que dans chaque cœur, une source du fleuve jaillisse jusqu'à dans la vie éternelle, que ton Saint-Esprit puisse venir sur l'Église et que ta parole soit manifestée en nouvelle vie en nous. Toi, le Dieu Tout-Puissant, notre Père, à toi soit la reconnaissance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Car tu es aussi devenu notre Dieu et notre Père. C'est pour cette raison que nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est notre prière, notre requête sincère, le désir le plus profond de notre cœur, que ta volonté soit faite et ta volonté sera faite. Loué et exalté soit son saint nom, soit ton saint nom. Tu prendras soin pour cela. nous nous délivrons de leurs chaînes et brisons leurs liens. Car celui que le Fils libère, il est réellement libre. Nous te remercions. Nous te louons. Et nous t'adorons. Dans le saint nom de Jésus. Amen. C'est peut-être raison que je t'adore, mon Dieu. Je t'adore. De la profondeur de mon cœur, comme je peux. Je t'adore, mon Jésus. C'est peut-être raison que je t'adore. Mon Dieu, je t'adore de la plénitude de mon cœur, comme je le peux. Je t'adore, mon Jésus.